voudrais vous raconter l'histoire de la lecture, ou plutôt l'histoire d'un homme. Un professeur qui lit à ses élèves une page de Belle du Seigneur d'Albert Cohen. Il adore ça, lire en classe, entendre le texte résonner, mettre le ton, poser sa voix. Mais d'ailleurs, de quelle voix parle-t-on? Quelle voix s'élève dans la salle de classe, dans ce silence enfin revenu? Celle de l'auteur, celle d'Albert Cohen, ou la sienne propre, celle du professeur lisant Albert Cohen? En fait, ça dépend des moments. Parfois, sa voix s'efface, se met au service de celle d'Albert Cohen, qui prend alors toute la place, tout l'espace. Mais il s'en faut de peu, et c'est la sienne, soudain, qui occupe le devant de la scène. Alors c'est lui le professeur, qui insiste, qui souligne, et c'est sa voix, lui, qui prend le pouvoir. Mais ce n'est pas tout. Il y a tant d'autres voix encore lorsqu'il lit cet extrait de Belle du Seigneur. Il y a les voix de tous ceux qui ont lu Belle du Seigneur avant lui. Il le sait très bien. Il ne lit pas, il relit. Il arrive après tant d'autres. On n'est jamais vraiment le premier lecteur. Enfin, il y a une dernière voix. On allait l'oublier, celle-là. Une voix qui n'est ni la sienne s'imposant, recouvrant celle de l'auteur, ni celle d'Albert Cohen écrivant son livre, mais simplement la voix qui lit. Une sorte de voix neutre, cette voix que nous entendons dans notre tête lorsque nous lisons en silence. Vous l'aurez compris, ça fait beaucoup de monde tout ça, beaucoup de voix en même temps, des voix parfois rivales, parfois complices. Quelle est donc cette voix que j'entends quand je lis? On connaît la blague attribuée un peu vite à Freud. Quand on fait l'amour, on est toujours au moins 6. Toi, moi et nos deux parents. Eh bien, quand on lit, on est toujours au moins 3. La voix qui lit, la voix qu'elle lit, celle de l'auteur, et puis l'oreille à qui s'adresse cette voix qui lit. Car toute lecture est adressée. Le professeur continue à lire et en même temps il se souvient. Lire l'a libéré de sa timidité, de son milieu social, de cette incapacité à s'écouter qui était la sienne. Alors il sent l'émotion monter en pensant que c'est peut-être cela qu'il offre à ses élèves. À un seul élève peut-être, mais même un seul, c'est déjà énorme. Et soudain, il se rend compte qu'il n'y est plus du tout. Il a cessé d'habiter sa lecture. Il lit machinalement. Sa voix continue à s'élever dans les airs, mais il n'y est plus vraiment. Et Albert Cohen est-il encore là? Et les élèves? Qu'est-ce que lire? Quelles sont les différentes voix qui se disputent la scène pendant que je lis? Pour en parler ce matin, de la lecture, de ses pouvoirs et même de ses jeux de pouvoir, j'ai la joie de recevoir Peter Sandy, musicologue et philosophe, Peter Sandy qui a magnifiquement mis en scène les différentes voix qui s'entrelacent dans la lecture, dans un essai érudit et passionnant à paraître en août, « Pouvoir de la lecture ». Peter Sandy, donc, qui nous a rejoint sous le soleil de Platon, dans la caverne de France Inter, pour nous aider à réfléchir à cette belle question, qu'est-ce que lire? Lire libère-t-il toujours?
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Peter Sandy.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous avoir rejoints sous cette canicule dans la caverne de Platon. Alors, vous êtes musicologue, philosophe, professeur de littérature comparée aux États-Unis. Et dans votre parcours d'auteur, vous avez beaucoup travaillé sur l'écoute, sur la musique. Vous avez fait un livre sur les tubes notamment. Et maintenant, vous travaillez sur la lecture. Est-ce que le point commun, finalement, c'est pas que quand on lit, on est toujours en train d'écouter quelque chose et de s'écouter?
Absolument. Je pense que le point commun, effectivement, de ces travaux qui sont apparemment très différents, oui. Qui sont allés d'un côté, qui était l'histoire de l'écoute, oui. C'est ce qui m'intéressait, l'histoire de nos oreilles, d'où elles viennent, comment elles se sont fabriquées, structurées, etc. Les tubes, bon, qui étaient en fait, ce qui m'intéressait, c'était essentiellement cette sorte d'obsession mélodique qu'on peut avoir, oui. Quand vous vous réveillez le matin, sous la douche, vous entendez un air qui va pas vous quitter pendant toute la journée. Donc ça m'intéressait, et comme phénomène psychologique, historique, etc. Ouais. Et puis la lecture, bon, ça paraît complètement délié, mais en même temps je pense que fondamentalement, ce qui se passe dans ce livre consacré au pouvoir de la lecture, c'est comme si on tournait l'oreille que j'ai tendue vers l'histoire de l'écoute, vers les tubes, ouais. Comme si on la tournait vers l'intérieur pour écouter ces différentes voix que vous mentionnez en introduisant l'émission, ces différentes voix qui se font entendre quand on lit, donc comme si on tournait l'oreille vers ce théâtre intérieur, ouais. Qu'est la lecture.
Alors c'est ça qui est très beau dans votre livre, donc Pouvoir de la lecture. Alors il ne sort que le 18 août, donc vous pouvez pour l'instant juste le commander, mais je crois que c'est quelque chose que vous savez faire. Ce qui est très intéressant, c'est que en fait, vous mettez des mots et puis des concepts sur quelque chose qu'on vit tous, mais sur lequel on s'arrête pas beaucoup. C'est vrai qu'en fait, on n'est pas habitué à s'arrêter comme ça, à se dire, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Dans l'exemple que j'ai pris, il y a un professeur qui lit Albert Cohen, et c'est vrai que souvent, on s'arrête pas sur ce qui se passe. Mais en fait, ce qui se passe quand je lis, que ce soit lire en silence ou lire à voix haute, c'est qu'en fait, il y a effectivement beaucoup de voix. Voilà, beaucoup de choses. Ma voix à moi, la voix de l'auteur, peut-être celle à qui je m'adresse. Et puis aussi, un truc très marrant que vous racontez, c'est cette voix qui est celle qui lit, comme une voix intérieure qu'on entend quand on lit en silence. Et là, vous dites, c'est marrant, est-ce que je suis fou? Est-ce que je suis seul à l'entendre? Et là, vous allez un peu chercher du côté des neurosciences, et notamment des travaux de Stanislas Dehaene, qui dit, mais oui, cette voix, elle existe, ça s'appelle la subvocalisation. C'est-à-dire, c'est pas ma voix perso à moi, c'est pas celle de l'auteur, c'est encore une autre voix.
Exactement. C'est vrai qu'à un moment, moi je suis parti au fond de cette expérience quotidienne qu'on fait tous. Enfin, si on lit tous les jours, mais ouais. Je pense que même si on n'est pas des grands lecteurs, voilà, on lit, on est toujours amené à lire dans toutes sortes de situations, et même de manière très brève et interrompue. À chaque fois, il y a de la voix en jeu, et donc, comme je disais, en tournant les oreilles un peu vers l'intérieur de ce qui se passe en nous. Je me suis dit, mais il y a plusieurs voix, mais en tout cas, il y a de la voix. Voilà. Et ouais. Déjà ça, à un moment, j'ai douté, parce que c'est pas évident. Il y a des gens qui disent, vous savez, toute l'histoire de la lecture rapide, ce qu'on appelle en anglais ouais. Speed reading.
Avec des points de fixation, la lecture en Z, là.
Voilà, et puis il y a même sur Internet, maintenant, il y a des applications qui vous aident à développer ça. Il y en a une qui s'appelle Spreader, je crois. Et donc, on vous fait défiler un texte de plus en plus vite pour vous entraîner à scanner un texte en diagonale. Et donc là, on dit que, bah, effectivement, vous entendez de moins en moins une voix, plus vous lisez vite. Et inversement, plus vous lisez lentement, plus la voix est présente. Et donc, je me suis pris à douter. Je me suis dit, mais est-ce qu'il y a vraiment de la voix nécessairement en jeu dans l'acte de lire? Alors, il semblerait que oui, même si on n'en est pas conscient. Et c'est là où le recours aux sciences cognitives m'a aidé, le recours aux neurosciences. C'est-à-dire que même si on le réalise pas, en fait, il y a ce qu'on appelle la subvocalisation, une sorte de sous-voix, ou je dis parfois ouais. Hypo-voix, c'est-à-dire une voix dont on ne prend pas forcément conscience, mais qui, si on la fait disparaître, par exemple avec des dispositifs expérimentaux qui vous couvrent cette voix intérieure, en fait, on s'aperçoit qu'on lit très mal, on se trompe sur les mots, enfin voilà. Donc la présence de la voix semble être quand même inhérente à la lecture.
Donc on va essayer de faire un peu office de pédagogie pour qu'on comprenne bien. Comment on pourrait l'appeler? Il y a la voix de l'auteur quand même. Si je lis Albert Cohen, j'entends Albert Cohen en train peut-être de lire son texte pendant qu'il l'écrit. Ça, c'est une voix. Ensuite, il y a ma voix à moi, quand je mets ma subjectivité, quand je mets le ton, quand je mets l'accent, par exemple le prof qui veut faire entendre le texte à ses élèves. Après, il y a cette voix, la voix qui lit, un peu neutre. Vous dites que c'était un peu la voix que prenaient les esclaves dans l'Antiquité, quand ils devaient lire les textes. Vous appelez ça d'un terme technique?
Oui, qui est l'anagnoste. Voilà, l'anagnoste. C'était le nom qu'utilisaient les Grecs. Ouais.
Et est-ce qu'on pourrait pas se dire qu'aujourd'hui, dans un temps de crispation identitaire, où chacun est comme ça toujours réduit, obligé de se limiter à une voix ou une identité, que peut-être ça pourrait nous faire du bien à travers la lecture, de nous ouvrir à notre multiplicité comme ça, de devenir plusieurs?
Mais moi, c'est ce que je crois profondément. C'est-à-dire, si on pense, comme je le crois vraiment, que lire, c'est devenir quelque chose qu'on n'était pas. Ouais. Ça, c'est vraiment peut-être l'idée à laquelle je tiens le plus. Alors, il faut expliquer ça. C'est-à-dire, comment ça se fait que quand je lis quelque chose, je deviens quelqu'un d'autre? C'est pas seulement... Bien sûr, on pourrait penser que c'est parce que j'absorbe un contenu qui m'est donné, mais ça serait quand même très réducteur, et ça serait voir la lecture comme une espèce d'empreinte comme si on recevait un marquage en termes d'information. D'ailleurs, c'est intéressant ce mot information, comme si on recevait une forme en fait par le texte qui nous est donné. Mais la lecture, c'est pas ça. La lecture, c'est aussi le lecteur qui s'invente, qui devient autre et qui finalement donne de la place à toutes ces voix qui sont en lui. Alors, juste pour effectivement les nommer, ces voix, il y a effectivement la voix de l'auteur, et lire, c'est d'abord et avant tout probablement prêter sa voix à celle de l'auteur,
c'est-à-dire déjà pas mal.
Voilà, ça c'est énorme. Mais il y a aussi donc la question, c'est en fait quelle est la voix qu'on prête à l'auteur. Et là, moi je pense que c'est pas ma voix que je prête à l'auteur, parce que en fait quand je lis, je suis en train d'écouter une voix qui lit le texte de l'auteur. Donc ouais. En fait, j'écoute quelque chose comme une voix neutre. On peut tous faire l'exercice, et je pense que on l'entend en quelque sorte en soi, cette voix neutre, qui est, moi je la vois vraiment vraiment comme un lointain héritage, effectivement, de ces esclaves lecteurs qui étaient assez bien traités d'ailleurs.
Oui, bien sûr. Dans l'Antiquité. D'ailleurs, je crois qu'il y a quelqu'un qui pleure la mort de son esclave lecteur, qui dit je retrouverai jamais un aussi bon, etc.
Absolument, oui. Dans l'Antiquité gréco-romaine, il y a beaucoup de mentions de ces esclaves lecteurs. Il y en a une dont je parle dans le livre qui est très frappante, qui est puisqu'on est sous le signe de Platon ici, qui est dans le Thé et Tête de Platon, où en fait il y a un prologue avant le dialogue proprement dit, et l'un des deux personnages du prologue se tourne vers un jeune garçon qui était donc un esclave lecteur et lui dit prends le livre et lis. Et ça c'est très frappant parce qu'ensuite tout le dialogue qu'on lit avec les personnages, etc., on le lit en sachant que d'une certaine manière il est lu par un esclave. Voilà.
Donc, il y a toutes ces voix, mais vous dites la voix que je prête à la voix de l'auteur et que j'adresse en plus à quelqu'un, mais il y a quand même aussi, j'ai envie d'ajouter, il y a quand même aussi ma voix à moi dans la mesure où quelque chose aussi me touche et que je me mets à l'habiter avec ma subjectivité. Donc ça fait encore une autre voix, ça. Par exemple, vous êtes prof de littérature comparée aux États-Unis, où ça d'ailleurs ?
Brown, l'université de Brown.
J'imagine que vous lisez des textes à vos étudiants.
Absolument.
Et je pense que
eux aussi en lisent.
Voilà, mais vous voyez bien qu'il y a aussi Peter Sandy qui à un moment prend la parole quand même.
Oui, bien sûr, bien sûr. Mais moi, j'ai tendance à penser que pour pouvoir dire moi je lis quelque chose, qu'est-ce que c'est ma voix ? Au fond, cette voix qui est la mienne, c'est justement la composition. Elle est tissée avec toutes ces voix intérieures.
Ouais.
Et c'est une voix, comment dire, c'est une voix qui
multiple.
Qui, multiple, exactement. Ouais. C'est une polyphonie vocale qui quelque part me fait devenir quelque chose.
Voilà. Alors dans vos précédents travaux, il y avait un concept que j'avais adoré à propos des tubes, c'est le concept de intimité. Donc intimité, et puis le mythe au milieu, c'est le mythe. Ce que vous voulez dire, je crois, c'est que quand il y a un tube qu'on a dans les oreilles, vous parlez de verre d'oreille, ça ne nous sort pas de la tête, un grand tube, quoi, une grande chanson populaire, c'est qu'en fait, il y a quelque chose comme d'universel, comme un mythe universel, mais que chacun reçoit dans son intimité, et c'est ça qui fait le tube. Est-ce que c'est pas un peu pareil quand je donne ma voix à celle d'Albert Cohen et je lis Belle du Seigneur ? Est-ce qu'on retrouve pas cette espèce de dualité où je lis quelque chose d'universel en l'habitant aussi de ma subjectivité ?
Alors je suis content que vous disiez ça parce que je me suis souvenu récemment qu'il y a un magnifique épisode dans les Confessions de Saint-Augustin, qui est un épisode de lecture qu'on cite souvent, où en fait, Saint-Augustin, c'est au moment de sa conversion, il entend tout d'un coup une voix, il dit que c'est une voix d'enfant, une voix de garçon, de fille, c'est pas trop, mais une voix qui a la forme de la rengaine, de la comptine, voilà. Et cette voix lui dit, tolle legge, en latin, c'est-à-dire prends et lis, attrape et lis, donc prends le livre et lis. Et il se met à lire les épîtres de Paul, et puis il est converti, c'est la révélation, etc. Et donc, c'est intéressant, parce que cette voix des enfants, qui a une forme de comptine, donc un peu une forme de tube ou de rengaine intérieure, c'est elle qui lui dicte de lire. Et je pense qu'effectivement...
Comme si c'était pas lui qui se l'imposait, mais la voix. Comme s'il y avait un impératif qui vient d'ailleurs, quoi.
Exactement. D'ailleurs, ça, c'est une chose qui m'intéresse beaucoup dans le livre sur la lecture, dans le pouvoir de la lecture. C'est cet impératif qui nous accompagne sans cesse, qui nous dit lis, lis. Voilà. Et puis, ça nous arrive souvent, évidemment. On le sait tous, de nous déconcentrer, d'être perdu. Ouais. Tout d'un coup, on tourne une page. Et puis,
ce qui est magnifique dans votre livre, c'est qu'il y a une hésitation comme ça entre deux pôles. Il y a le moment où, en fait, dans ma lecture, j'ai beaucoup d'inventivité. Vous parlez d'inventivité inouïe. Et puis, l'autre moment où c'est machinal et où, quelque part, je disparais un peu et je suis en train de lire. Et en fait, il y a des changements de vitesse comme ça, on va de l'un à l'autre. Mais, j'en viens à une question peut-être plus simple, mais quand même importante, c'est, au fond, c'est quoi le plaisir de lire, dans ce cas?
Mais moi, je pense que le plaisir de lire, qui est pas un plaisir univoque, parce qu'il y a aussi de la douleur dans la lecture. On le sait tous. Bah déjà, il y a le moment de l'apprentissage de la lecture. C'est quand même une espèce de dressage du corps. Enfin, voilà, c'est pas évident d'apprendre à donner sa voix, à prêter sa voix. Ouais. Mais donc, il y a beaucoup de plaisir là-dedans, évidemment. Un plaisir ambigu, voilà. D'ailleurs, c'est pas évident d'en parler forcément. Mais enfin, il y a dans l'histoire de la lecture, l'histoire de la lecture. rupture est profondément entrelacée avec l'histoire de l'érotisme dans l'Antiquité, qui est un érotisme homosexuel inhérent aux pratiques éducationnelles, pédagogiques, dans l'Antiquité. Et donc, pour les Grecs, par exemple, lire, c'est-à-dire donner sa voix, c'est en quelque sorte se laisser traverser, pénétrer, par la voix de l'auteur. Donc, il y a du plaisir là-dedans. Voilà.
Dans ce cas, le plaisir, c'est aussi, je simplifie un peu, désolé, mais on est obligé de ne plus être soi, d'être traversé par autre chose que soi. Le plaisir de s'abandonner, de se déprendre de soi. Ouais. Et encore une fois, ça fait du bien d'entendre ça en des temps de crispation identitaire.
Tout à fait, tout à fait. Et moi, je pense que le, disons, pour le dire d'un mot, le plaisir de la lecture, ça serait peut-être faire l'expérience, justement, de toute cette polyphonie intérieure qui se cale, qui se décale, qui s'agence et se réagence à chaque fois de manière différente, à chaque page, voilà.
Eh bien, à propos de polyphonie, on va écouter un peu ça. We'll be right back. C'était Daft Punk, Lose Yourself to Dance.
France Inter. Sous le soleil de Platon.
Nous sommes toujours avec Peter Sandy, musicologue et philosophe, et nous parlons de votre excellent livre à paraître le 18 août aux éditions La Découverte, Pouvoir de la lecture, dans lequel on découvre que quand on lit, on est plusieurs voix, que lire, c'est s'ouvrir à cette polyphonie, que c'est, comme je le disais tout à l'heure avec mes mots un peu à moi d'obsession personnelle, sortir de la réduction identitaire. On parlait aussi du plaisir de lire, et vous disiez très joliment, c'est le plaisir de n'être plus soi, d'être traversé par d'autres voix que la sienne. Juste une petite question au passage, vous en pensez quoi de Daft Punk, vous le musicologue qui avait écrit un livre sur les tubes ?
Ben, moi j'adore, et puis d'ailleurs mon livre sur les tubes se termine par une chanson de Daft Punk, enfin qui est, qu'est-ce que c'est le titre, Around the World.
Ah ouais, bah ouais.
Et donc voilà, pour moi c'était une chanson qui incarnait un peu la mondialisation du tube, le marché global du tube, qui est en même temps cette espèce de marché intérieur, c'est-à-dire c'était Around the World, autour du monde bien sûr, mais autour de la tête, enfin, et qui ne cesse de faire le tour.
Plus cette idée de, ça revient comme une ritournelle, ça revient sans cesse et chacun, au fond, éprouve quelque chose quand même de personnel au cœur de ce contact avec ce qui revient pour tous.
Ben oui, c'est même le tube, c'est même ça. Hein. Ça vous évoque le souvenir qui semble ne concerner que vous, l'été X où j'étais à tel endroit avec telle personne. Et puis en même temps, c'est ce qu'il y a de plus banal, complètement interchangeable, un tube en vous, un autre. Donc c'est vraiment cette expérience, c'est un peu la thèse du livre, cette expérience de la singularité absolue. Ça n'est que moi à cet endroit-là. Et c'est une sorte de signe de mémoire qui m'indique, qui m'épingle à cet endroit-là et à ce temps-là, et en même temps, c'est la chose la plus banale au monde.
C'est ça qui est dingue dans un tube. D'ailleurs, je recommande votre livre aux éditions de Minuit, Tube, sous-titré comment déjà ?
La philosophie dans le jukebox.
Voilà, la philosophie dans le jukebox, et effectivement, vous parlez aussi très bien de cette fonction de réminiscence de la musique qui me rappelle comme ça à mon passé. Mais justement, revenons à la lecture, puisque vous dites, voilà, dans la lecture, on s'ouvre à une polyphonie, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs voix, il y a la mienne, il y a celle de l'auteur, il y a cette voix qui lit, il y a peut-être aussi celle à qui je m'adresse. Ça veut dire qu'au fond, je suis pas le même si je lis cette page de Albert Cohen à toi, et si je la lis à toi qui est différent, bah je change parce que je ne m'adresse pas à la même personne. Donc il y a un mouvement comme ça. Mais si on compare à la polyphonie dans la musique, moi j'ai toujours eu l'idée qu'au fond, c'est dans la musique qu'il y a vraiment de la polyphonie, qu'il y a vraiment plusieurs voix. Et qu'en littérature ou en peinture, on pourrait toujours essayer, mais qu'on n'arrivera jamais à ce niveau de multiplicité et de polyphonie. Vous en pensez quoi ?
Alors, c'est vrai que dans la musique, il y a des œuvres musicales qui sont des monuments, enfin des chefs-d'œuvre de polyphonie, avec je ne sais combien de voix en même temps, qui chantent en même temps, etc. Ça, c'est une chose. Mais je pense que là où on peut comparer la musique et la littérature, enfin, dans le cadre de ce dont on est en train de parler, c'est-à-dire la lecture, il faudrait comparer l'écoute en tant que polyphonie et la lecture en tant que polyphonie. Alors, je pense que, pour poursuivre dans la direction que vous disiez, je pense que dans l'écoute, il y a aussi une expérience qui est très proche de celle qui est pour moi la lecture. C'est-à-dire quand j'écoute quelque chose, je l'écoute au fond pour quelqu'un d'autre. Même si c'est pas quelqu'un de précis, même si c'est pas X ou Y, mais mon écoute, elle est toujours adressée à quelqu'un. J'écoute et je remarque et je mémorise et je me dis ça, je voudrais réentendre ça, ça me plaît, parce que je suis déjà en train de penser que je vais le faire réentendre à quelqu'un.
Mais c'est dingue, parce que comment écouter comment s'écouter lire, finalement, et comment écouter une écoute. C'est ça qui est bizarre. Si je fais écouter, par exemple, une chanson que j'adore à quelqu'un, et que je suis tout seul avec cette chanson, je m'imagine en train de la faire écouter, c'est déjà extrêmement riche.
Mais je pense que, tout simplement, l'écoute est adressée, toujours. L'écoute, elle est toujours adressée à quelqu'un. Et la lecture, c'est au fond pareil. Moi, j'introduis dans le livre un concept qui peut paraître compliqué. En réalité, c'est très simple. Alors, on parle de lecteur. Moi, je parle de lecteur.
Comme un destinataire.
Ouais. Et le lecteur, ça peut être quelqu'un en particulier, mais ça peut être aussi cette espèce de place vide ou cette place libre en nous. C'est-à-dire, je lis, j'entends une voix en moi qui lit, et cette voix, elle adresse la lecture à quelqu'un. Voilà. Je pense que la lecture est fondamentalement adressé, même si on ne sait pas à qui.
Alors c'est très beau ce que vous dites, parce que je me permets de pas de traduire, c'est mal dit, mais de résumer pour nos auditeurs. C'est-à-dire que si vous êtes chez vous tout seul, en train de lire un roman qui vous touche, en fait, non seulement vous prêtez votre voix à celle de l'auteur, mais vous l'adressez à quelqu'un. Voilà. Alors que ce quelqu'un, vous le dites joliment, ça peut être quelqu'un que j'aime, à qui je vais parler de ce livre plus tard, ça peut être quelqu'un qui est mort, à qui je pense, ça peut être quelqu'un en moi, qui est la personne que je vais devenir. Et c'est vrai que ça fait du monde.
Voilà, voilà. On est très nombreux, mais surtout, du coup, la scène de lecture, la scène intérieure, hein, je veux dire, elle est au fond, elle a une géométrie qui est ouverte, qui a des directions. Donc, ma lecture, elle est toujours orientée vers celle ou celui à qui elle s'adresse d'avance, en fait. Voilà.
Oui, c'est ça. Il y a toujours une adresse. Mmh. Et ça veut dire aussi que, encore une fois, on sort de soi.
Exactement.
Après les années 60 et les années 80, pédagogiquement, la lecture à voix haute avait très mauvaise réputation et on conseillait l'apprentissage de la lecture à voix basse pour que le décryptage aille directement du signe à la cervelle sans transiter par la prononciation. Moi, personnellement, j'ai toujours pensé que c'était idiot. Et ma femme, qui était une excellente élève, me disait, je me souviens très bien que quand j'apprenais à lire à voix basse, la première des choses que je faisais, je courais chez moi avec ce que j'avais lu à l'école, je mettais mes poupées en rang et je lisais à voix haute aux poupées. Il y avait un besoin. La langue, c'est du son.
Alors c'était la voix de Daniel Pennac, vous l'avez peut-être reconnu. D'ailleurs, Daniel Pennac qui avait proposé à un moment des règles de lecture. Alors je sais que dans votre livre, vous critiquez l'idée de règles comme ça, trop impératives. Mais elles étaient assez jolies, les règles de Daniel Pennac. C'était tu lis quand tu veux, tu arrêtes quand tu veux, tu peux lire avec de la musique, tu peux lire en étant absent, en étant présent. Donc ça devrait vous parler. Mais cette idée de lire à voix haute comme ça, finalement pour vous c'est un peu pareil que quand je lis à voix basse.
Oui, moi je fais pas une différence radicale entre lire à voix haute et lire de manière silencieuse. Bien sûr, je sais qu'il y a une évolution historique et on en a beaucoup parlé. On peut pas situer exactement, ça aurait pas de sens, le moment où la lecture est passée de la voix haute à la voix intérieure, même s'il y en a des indices. Bon, pour reparler de saint Augustin qu'on mentionnait tout à l'heure, il y a un moment très célèbre dans les Confessions où saint Augustin rend visite à saint Ambroise, qui était un peu son maître, et il s'étonne de le voir lire à voix basse. Mais il y a aussi des témoignages très très antérieurs sur le fait qu'on lisait à voix basse. Bon, mais ça restait quand même étonnant. Mais je fais pas une grande différence parce que au fond, moi je pense que les scènes de lecture à voix haute dont on a des témoignages dans l'Antiquité, pas seulement dans l'Antiquité, il y en a aussi des exemples très récents. Par exemple, il y avait une tradition jusque dans les années 30 à Cuba, dans les usines où on roulait les cigares, il y avait un lecteur qui s'appelait un lector qui était payé en fait par la communauté des ouvriers du cigare et qui leur lisait à haute voix des choses pendant qu'ils travaillaient.
C'est dingue, c'est génial.
Ouais. Et donc des lectures à haute voix, il y en a toujours. Puis il y a le livre audio quand même aujourd'hui, qui est une forme de lecture à haute voix. Mais je pense qu'au fond, la lecture silencieuse, c'est tout simplement, si j'ose dire, parce que c'est tout sauf simple, c'est une intériorisation de la scène de lecture à haute voix. C'est-à-dire, c'est pas une différence radicale, c'est plutôt que toutes ces voix qui sont présentes dans la lecture à haute voix, celui qui dit à un autre, alors prends ce livre, lis-le-moi, lis-le pour quelqu'un, etc. Toute cette scène-là, elle est en quelque sorte avalée, si j'ose dire.
Elle est intériorisée. D'ailleurs, on peut aussi lire votre livre, donc Le pouvoir de la lecture, qui sort le 18 août, donc je vous rappelle que vous pouvez le commander si vous êtes impatient. On peut aussi lire votre livre comme une invitation à réfléchir à ce que c'est que l'intériorité, tout simplement. Parce que souvent, on caricature l'intériorité. Ce serait un jardin secret. Il y aurait juste un lieu comme ça et je devrais aller le dénicher, mon jardin secret. Mais en fait, vous montrez que c'est beaucoup plus ouvert que ça, l'intériorité. Que dans mon intériorité, il y a l'extériorité, il y a les autres, il y a ceux à qui je m'adresse, ceux à qui je pense, ceux que je lis. Et donc aussi, c'est une belle méditation sur ce que ça veut dire, l'intériorité. C'est-à-dire une multiplicité avec différents champs, différentes personnes, différentes vitesses aussi. D'ailleurs, venons-en à cette question de la vitesse. Vous avez des belles réflexions sur lire vite, lire lentement. Est-ce que ces différentes vitesses, c'est pas une façon de comprendre les différentes voies, finalement ?
Mais je pense que, comme on disait tout à l'heure, si on dit que la lecture est adressée, en fait, il y a quelque chose qui entraîne la lecture au-delà du texte, toujours. On en fait l'expérience très simplement quand on lit, déjà parce que tout simplement, des fois, on décroche. Et qu'est-ce que ça veut dire décrocher quand on lit ? C'est intéressant parce que on décroche, mais aussi des fois on met du temps à entrer, comme on dit, dans un livre. En fait, on est déjà en train de lire, mais pas vraiment. Bien sûr, il y a une voix qui murmure, qui nous lit le texte, mais on n'est pas vraiment en phase avec elle. Donc il y a un décalage. Ça a déjà commencé à lire, mais j'y suis pas vraiment. On fait tous cette expérience. Et inversement, des fois on continue à lire, donc il y a une voix qui continue à lire en nous, mais on l'écoute pas vraiment. Moi, ça m'arrive tout le temps. J'entends le texte, mais en fait je l'écoute pas. Et du coup, je dois recommencer. Voilà, je reviens en arrière, puis je recommence à lire, et je me dis bon là, je vais vraiment écouter. Donc c'est bizarre parce que je suis à la fois en train de lire et en même temps je m'écoute pas lire. Voilà. Donc toutes ces expériences de la polyphonie des voix dans la lecture, moi, elles m'ont conduit à penser qu'en fait, dans la lecture, il y a de l'anticipation et il y a du retard. Je peux être en avance sur le texte, je peux être en retard sur le texte. C'est-à-dire qu'en fait, je suis déjà en train de lire, mais je suis derrière le texte, ou je suis encore en train de lire, mais je suis déjà en train de penser à autre chose.
Mais qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que ça nous parle de notre liberté? Est-ce que ça nous parle de notre plaisir? Qu'est-ce que ça nous dit, ces phénomènes de ralentissement ou d'accélération?
Alors, vous parliez très justement de l'intimité, que vous disiez très justement, je crois que l'expérience de la lecture, c'est au fond une expérience de l'intimité, je dirais même du devenir ou de la construction de l'intimité, qui est jamais donnée, qui est jamais un endroit qui existe d'avance. Et donc, ces anticipations, ces retards, je dirais que c'est vraiment la forme de l'expérience, de cette complexité de l'intimité. Si l'intimité est complexe, c'est parce qu'elle a une temporalité qui est ratifié, on est en avance sur soi, on est en retard sur soi, on n'est jamais exactement présent à soi, on n'est jamais là en même temps que soi-même, on est toujours en avance ou en retard.
Ouais, c'est très beau de vous entendre, parce qu'aujourd'hui il y a des choses un peu exaspérantes, c'est l'invitation à la pleine présence, à la pleine conscience, la méditation de pleine conscience, tu dois être là, ici, maintenant. Bon, peut-être que c'est bien d'être plus présent qu'absent, mais au fond, quand on vous écoute parler de la lecture et qu'on a cette expérience, on s'aperçoit que c'est n'importe quoi. Quand je lis, je ne cesse d'être là et puis de m'absenter. Et au fond, nous, les animaux humains, peut-être qu'on n'a pas d'autre façon d'être présent que d'être parfois présent, parfois absent, et que c'est très bien. Moi, ça m'énerve tout le temps quand quelqu'un me parle et me dit « Mais vas-y, regarde-moi, tu n'es pas complètement là. » Mais non, j'ai le droit de penser à autre chose, j'ai le droit de rêvasser, j'ai le droit de m'absenter un petit peu. C'est un peu ça aussi, votre livre. C'est vous nous donner le droit, comme ça, d'être un peu présent, absent, et de pas être tout le temps totalement là, quoi.
Oui. Alors, puisque comme vous parlez d'intimité, tout d'un coup, je pense à quelqu'un qui a été très important dans le livre, qui est Michel de Certeau, qui est un penseur très intéressant du quotidien, de l'expérience quotidienne, de toutes sortes de domaines sur lesquels on réfléchit pas forcément. Et donc, dans un très beau texte sur la lecture, qui s'appelle La lecture absolue, il parle de l'expérience que font les mystiques en lisant. Et c'est très beau parce que bon, il prend l'exemple de Thérèse d'Avila ou d'autres. Qui prennent le livre en fait, et le livre est une sorte de tremplin ou de pont pour aller vers la prière, vers la méditation. Et ce qui l'intéresse lui, ce qui m'intéresse moi aussi, c'est ce moment où la lecture, c'est encore de la lecture, c'est-à-dire on est encore en train de lire, mais elle est déjà en train de décoller vers autre chose, le moment où on va distraire, où on va rêvasser, je sais pas. Et donc il faut imaginer ça comme la tangente d'un texte, donc ça, d'un cercle. Ça touche, la lecture touche le texte, mais est déjà en train de partir. Et ça, je crois, c'est vraiment le moment intéressant. C'est un moment plein de tension aussi. On est encore dans le texte, mais déjà ailleurs. Donc c'est voilà.
Mais d'ailleurs, ça va très loin parce que dans ce cas-là, le mystique, il disparaît. Il est plus du tout un individu et par le texte, il s'élève à quelque chose d'autre. Et on est carrément dans le contraire. Du soit présent à toi-même comme individu, soit vraiment là. Au fond, le mystique est plus là du tout et ça lui fait un bien fou.
We'll be right back.
C'était The Liminanas et Areski, la musique.
France Inter. Sous le soleil de Platon.
Nous sommes toujours avec Peter Zendy et nous parlons de votre très beau livre « Pouvoir de la lecture » à paraître le 18 août aux éditions La Découverte. C'était marrant, cette chanson, c'était pas fait exprès, mais le refrain c'était « Quand tu es là ». Et justement, ce que vous nous montrez, c'est que quand on lit, il y a des moments où on est là, et on donne sa voix, on prête sa voix, et puis des moments où on n'est pas là, quoi, on s'absente, jusqu'à ces grands mystiques qui au fond disparaissent, et puis voilà. Et d'ailleurs, il y a un autre sens de lire quand même, premier, presque métaphysique ou prophétique, qui est lire sans texte, c'est-à-dire lire dans les étoiles, lire l'avenir dans les entrailles des bêtes, lire ce qui n'a jamais été écrit au fond. Quel rapport notre façon à nous de lire, quand on lit un roman, ou même quand on lit, je sais pas, autre chose, entretient-elle avec cette première fonction prophétique comme ça de la lecture ?
Oui, ça c'est une fonction que évoque de manière très belle Walter Benjamin dans un texte que je cite qui s'appelle « Sur le pouvoir d'imitation ». Et où il dit que la première forme de lecture, donc la lecture avant même l'invention de l'écriture en quelque sorte, c'est lire quand on regarde les constellations, lire quand on regarde des traces, lire des traces en fait, ou lire des configurations qui sont pas des configurations textuelles, qui sont pas des choses écrites sous forme de texte. Alors moi, ça m'intéresse pour plusieurs raisons. Pas tellement pour dire que la lecture au fond aurait précédé l'invention de l'écriture, bien que je pense que ce soit vrai, mais plutôt pour dire que lire un texte, c'est aussi garder une sorte de mémoire de cette lecture qui va au-delà du texte.
Oui,
c'est-à-dire que quand on lit un texte, on fait autre chose que simplement se soumettre au texte. On lit, on interprète. Oui, et puis on anticipe. On va au devant du texte, et puis on est aussi quelque part dans le rôle d'un prophète. Le mot semble un peu exagéré, mais
non, mais c'est
vous
bien.
Savez, prophète.
Moi, je recommande. Soyez prophète sur la plage avec votre roman de l'été. Là, soyez
mais en plus,
prophète.
Si on prend le mot prophète dans le sens vraiment simplement étymologique du terme, ça veut dire parler pour quelqu'un d'autre, donc prêter sa voix à quelqu'un. Ça peut être Dieu, mais ça peut être aussi un texte. Et puis ça signifie aussi dire à l'avance, c'est-à-dire dire ce qui va se passer. Donc parler à l'avance. Je pense que les deux aspects sont très importants dans la lecture. C'est-à-dire quand on lit, on prête sa voix à quelqu'un qui n'est pas Dieu, mais qui est le texte, l'auteur. Et puis en même temps, quand on lit, on anticipe sans cesse. Ça, c'est quand même essentiel dans l'expérience de la lecture. On est sans cesse en avance, on devine ce qui va se passer, on est en train de prédire littéralement, c'est-à-dire de prophétiser ce que va devenir le texte.
Et c'est ça qui est très beau. On comprend aussi, en vous écoutant, ce que c'est que vivre aussi en lisant, c'est-à-dire comment la vie s'accélère ou se ralentit, comment on devient autre que soi et puis finalement plus soi, et comment peut-être, c'est évidemment aussi ce qui apparaît dans votre livre, on est profondément vivant en lisant.
J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. Un gros meuble à tiroir encombré de bilans, de vers, de billets doux, de procès, de romances, avec de lourds cheveux roulés dans des quittances, cache moins de secrets que mon triste cerveau. C'est une pyramide. Un immense caveau qui contient plus de morts que la fosse commune. Je suis un cimetière aboré de la lune, où comme des regrets se traînent de longs vers qui s'acharnent toujours sur mes morts les plus chères. Je suis un vieux boudoir plein de roses fanées, où gît tout un fouillis de modes surannées, où les pastels plaintifs et les pâles bouchées seuls respirent l'odeur d'un flacon débouché.
Alors on a de la chance d'être avec vous, Peter Zendy. Comment ne pas se réjouir d'avoir un musicologue, philosophe, pour nous expliquer ce qu'on entend quand Fabrice Lucchini prête sa voix à Baudelaire, lisant le Spleen. Toute l'émission résonne là. Moi je trouve qu'on entend beaucoup Fabrice Lucchini quand même. Est-ce qu'on entend un peu Baudelaire? Oui. Mais et la voix qui lit, et puis nous, qui on entend au fond?
Mais j'étais frappé par les mots qu'il dit, qui j'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. Et je me disais quand même, c'est extraordinaire dans l'expérience de la lecture, on n'y pense jamais, mais vous l'avez mentionné à un moment, quand on lit, on n'est pas seulement ce lecteur aujourd'hui qui lit un roman ou un texte dans un lieu particulier, mais on hérite, ça je trouve ça vraiment fascinant, on hérite de beaucoup de voix qui nous ont précédés et qui nous ont précédés parfois très très longtemps. Par exemple, ces voix qu'on a évoquées, la voix de l'esclave lecteur dans l'Antiquité, d'autorité, la voix de, est-ce que je sais moi, la voix d'un tel qui a déjà lu le texte.
La voix voilà, de tous ceux qui ont adoré ce texte de Baudelaire, quoi, tout simplement.
Voilà, voilà. Et je pense que aussi, il y a quelque chose moi que j'adore chez Fabrice Luchini, ça depuis longtemps. C'est vrai qu'on l'entend beaucoup, mais ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est qu'il a l'air de s'étonner quand il lit, quand il dit n'importe quoi d'ailleurs. Il a l'air étonné de lui-même. Et donc Fabrice Luchini, quand il dit ou lit quelque chose, c'est comme s'il s'écoutait en train de le lire.
Il s'écoute lire.
Voilà, il s'écoute lire. Et donc, en fait, il nous donne à entendre cette une certaine expérience de la dissociation qui est, je crois, inhérente à la lecture. C'est-à-dire, je lis et je m'entends lire. Je suis le lecteur et je suis celui à qui la lecture s'adresse. Je suis deux. Et vraiment, Fabrice Luchini incarne ça de manière magnifique et un peu ironique aussi. Voilà, on ne sait jamais.
Mais ce qui est assez fort, c'est qu'il est quand même traversé par l'autre, qu'est Baudelaire, mais c'est au moment où il est traversé par l'autre qu'il est au fond le plus lui-même.
Exactement.
Et c'est ça, au fond, ça c'est un vrai, entre guillemets, message à dire aujourd'hui aux gens. Si vous voulez être vous-même, arrêtez d'être vous-même, quoi. Arrêtez d'être simplement vous-même, laissez-vous traverser. Et d'ailleurs, il y a un très joli vers de René Char qui dit ça, alors je le dis mal de mémoire, mais c'est si tu n'es pas capable de sortir de toi, de prendre ce risque, d'aller dans ce risque de vivre dans l'orbite des famines, dit-il, alors tu pourras jamais devenir toi-même, finalement.
Mais je pense que, enfin, oui, pour en rester à cette magnifique lecture de Fabrice Luchini, enfin, je trouve que ça serait une bonne leçon au fond, l'étonnement. L'étonnement, c'est un vieux terme qui a été l'une des premières définitions de la philosophie au fond en Grèce. Et quelque part dans la lecture, je trouve que les meilleurs moments de lecture, c'est les moments où finalement on s'étonne qu'on est en train de lire.
Exactement.
Parce que c'est une chose extraordinaire de lire si on y pense. C'est un agencement complètement improbable. Le fait que je suis traversé par une voix, je prête ma voix, je lis pour quelqu'un qui est pas là. Enfin, c'est une chose absolument
peut-être
incroyable.
Peut-être qu'il va arriver d'ailleurs. Et c'est vrai que ça me touche beaucoup. Ça me rappelle des choses que j'ai vécues, mais que je savais pas bien nommer, notamment avec mes élèves de lycée. Je me souviens d'un moment où ça me revient en vous parlant, où je lis un texte d'Alain, un très beau texte d'Alain sur l'action, et où j'entends. En fait, plein d'autres profs de philo qui ont dû lire ça à leurs élèves. Et c'est vrai que on est tellement nombreux, au fond, et on n'est jamais le premier lecteur, en fait, ou très rarement.
Et c'est d'autant plus mystérieux que, au fond, il n'y a pas vraiment d'histoire. Enfin, on pense que l'histoire, l'archive, elle est écrite, et donc il n'y a pas d'histoire qui s'est déposée dans l'oralité d'un texte. Je veux dire, quand je suis en train de lire à voix haute ou à voix basse, ces lecteurs sont des fantômes, ils sont pas vraiment là. Et en même temps, quelque part, ils sont quand même là. Il y a ces moments où on se dit, mais je suis en train de lire un texte, il y a des milliers, des millions de gens qui l'ont lu avant moi, et quelque part, leur voix sont là, voilà. Mais elles sont là de manière fantomatique, spectrale. Comme ça.
Et alors aujourd'hui, que prolifère sans limite ce qu'il y a à lire, c'est accessible, il y a des tablettes, etc. Est-ce que ça change quelque chose ou est-ce qu'au fond il y a un invariant comme ça du plaisir et de la nécessité de lire?
Alors, je pense que ça change quelque chose. En tout cas, c'est une expérience, c'est un drame même, qui a été beaucoup beaucoup dit, beaucoup partagé. Dans le livre, je cite le Faust de Valéry, de Paul Valéry, qui est un peu que je vois un peu comme le drame de la lecture à l'époque de ce qu'on pourrait appeler la littérature mondiale. C'est une expression qui a été proposée par Goethe. C'est-à-dire à l'époque où finalement il y a trop de textes. Il y a de l'illisible. Il y a de l'illisible, pas parce que ça serait mystérieux, parce que ça serait incompréhensible, mais parce qu'il y a trop, parce qu'on sait qu'on pourra jamais tout lire. Et peut-être ça a toujours été le cas, mais c'est le cas d'une manière qui, aujourd'hui, qui pèse. Enfin,
comment on fait alors ? Qu'est-ce qu'on peut faire ?
Je pense que c'est une question de... En fait, la vraie question, celle que pose Valéry aussi, c'est comment garder intact le désir de lire quand on sait que l'expérience de la lecture menace d'être écrasée par l'illisible. Quand on sait qu'au fond, lire, ça pourrait être complètement vain parce qu'il n'y a pas le temps, il n'y a pas la place, il n'y a pas l'espace. Enfin, il y a trop à lire. Vous savez, d'ailleurs, je suis en train de penser qu'il y a un artiste dont j'oublie maintenant le nom, qui a imprimé tout Internet. Enfin, c'est un projet. Ah oui, on peut évidemment pas imprimer tout Internet, mais c'est pour dire. Et donc, il y a des photos comme ça où on le voit submergé de textes dans une galerie d'art. Donc voilà, il y a quelque chose de l'ordre de ce fantasme qui pèse sur la lecture. Et la question devient du coup comment préserver le désir de lire. Et Paul Valéry trouve pour ça au fond un personnage, et un personnage chez lui dans son Faust qui incarne un peu ce désir de lire. Et c'est elle s'appelle Lust. L-U-S-T, qui veut dire désir, voire même avidité en anglais, en allemand. Mais moi, j'essaye d'entendre aussi ce verbe, ce nom, comme une forme du verbe lire qui serait au subjonctif. Une vieille forme, L-U-S-T, c'est comme L-U accent circonflexe. Qu'elle lut ou qu'il lut, je souhaiterais qu'elle lut ou je souhaiterais qu'il lut, c'est un peu vieillot. Mais enfin, ça dit quand même qu'on peut penser la lecture au subjonctif, c'est-à-dire qu'elle est pas advenue, c'est pas une lecture actuelle, je lis pas au présent, mais la lecture reste à venir. Voilà.
Et elle reste de ce fait aussi objet du désir.
Exactement, comme quelque chose qui reste à venir, qu'on peut désirer, ça laisse à désirer, voilà, on pourrait dire ça comme ça. Ce qu'il faut, c'est que la lecture laisse à désirer, qu'il reste du désir à venir.
C'est très beau, et d'ailleurs ça me rappelle aussi la continuité de votre travail, parce que dans votre travail sur l'écoute, vous présentiez l'auditeur, qui est aussi un auditeur arrangeur. Eh ben, c'est un peu pareil. Lire, c'est parachever un texte, c'est le prolonger, et c'est éprouver sa liberté et sa complexité au cœur de ce prolongement. Peter Sandy, merci beaucoup de nous avoir accompagnés ce matin dans la caverne de Platon. Je recommande votre livre, Pouvoir de la lecture, aux éditions de la Découverte, à paraître le 18 août. Et puis, je vais essayer, pour nos auditeurs, et comme à mon habitude, de résumer la philosophie de la vie qui a été la vôtre ce matin. Alors évidemment, une philosophie de l'écoute. Tout ce que vous nous proposez dans votre livre sur les tubes, aux éditions de Minuit, dans votre livre sur la lecture, dans toutes vos conférences, c'est d'apprendre à tendre l'oreille, à écouter le bruit du monde, à écouter la complexité de l'intériorité, à ne pas se réduire à quelque chose de monolithique, de simple. Vous nous invitez toujours dans votre travail à devenir multiples, à nous ouvrir à ces différents devenirs, à ces différents rythmes en soi, à ces différentes vitesses, on pourrait dire, et à sortir d'une espèce de réduction identitaire. Une philosophie sensible, et ce n'est pas pour rien que vous êtes musicologue et pas simplement philosophe. Merci beaucoup, Peter Sandy. Cette émission a été réalisée par Alicia Vulot, à la technique Ludovic Asselot, à la programmation musicale Valentine Chaudebois. Merci beaucoup pour ce Daft Punk qui nous permet véritablement d'entendre la thèse de Peter Sandy comme jamais. Cette émission a été préparée par Vera Lou Deride et Fabrice Rivaud. Quant à moi, je vous retrouve demain matin à 9h précisément sous le soleil de Platon dans la caverne de France Inter, et nous essaierons maintenant dans cette caverne de comprendre ce que c'est que la résonance, ce très beau concept d'Hartmut Rosa, finalement qui a été aussi l'objet de notre entretien ce matin à Peter Sandy. L'essentiel dans un monde qui s'accélère sans cesse, c'est de retrouver de la résonance quand on lit, quand on se regarde, quand on se parle, quand on écoute de la musique. Merci beaucoup, Peter Sandy.